Viens traiter en moi le péché. Viens me libérer des ténèbres.
La Fondation Adonai Iri House vous invite à suivre l'émission Citoyens du ciel et de la terre du pasteur Ghislain Afolabi Agbede.
Et le monde veut me crucifier.
Pour soutenir les émissions radiophoniques de la Fondation Adonai Iri House, Bank of Africa Benin, nom du compte, Association Adonai Iri House, Code Banque BJ 061, Code Guichet 01001, numéro du compte 00119 28 95 00 05, Clérib 07, Code Swift Afri BJ BJ XXX.
Mon âme soupire après toi. Viens me délivrer des angoisses. Viens réaliser.
Auditrices et auditeurs de l'émission Citoyens du ciel et de la terre de ce jour, que la grâce et la paix vous soient accordées. De la part de Dieu le Père, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de la part de notre Consolateur le Saint-Esprit. La rencontre de Jésus-Christ avec Marie de Magdala a été l'objet de notre précédente émission. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Lui demanda Jésus avant de lui confier la mission d'informer les disciples et par ricochet le monde entier qu'il a vaincu la mort et qu'il est éternellement vivant. Marie de Magdala, qui avait soutenu le ministère de Jésus-Christ, était au pied de la croix de son Seigneur et Sauveur avec d'autres femmes. Au nom de ces femmes au pied de la croix se trouvait Marie, la mère de Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean nous renseigne en ce sens que près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. La tradition nous renseigne que Marie de Magdala serait retiré dans la vie des fêtes avec Marie, la mère de Jésus-Christ et Jean l'apôtre. Le nom Marie semble donc être un nom populaire. L'émission d'aujourd'hui se focalise sur Marie, la mère de Jésus-Christ, celle qui a reçu l'appel et la vocation d'être un instrument entre les mains de Dieu et également témoin des événements de Golgotha. Le Dieu fait homme en vue du salut de l'humanité a eu à séjourner dans le sein d'une vierge appelée Marie. Les péripéties de l'histoire de l'Église ont prouvé que les hommes se sont évertués à comprendre le rôle joué par Marie dans le processus de l'incarnation. À la lumière de la Bible, nous chercherons à comprendre la place et le rôle de Marie et les implications qui devraient en découler pour la foi chrétienne. Quelle est la place et le rôle de Marie, la mère de Jésus-Christ? Voilà posée de façon claire la principale préoccupation à laquelle cette série d'émissions sur la Christotokos, celle qui accouche le Christ, se penchera. Nous entendons faire une présentation du point de vue biblique sur Marie, celle que Dieu a souverainement choisie pour accomplir l'œuvre de porter en son sein Jésus-Christ, le Dieu incarné. Il s'agit d'interpeller tous les chrétiens à faire un retour constant à la parole révélée pour apprécier à sa juste valeur la compréhension qu'il faudrait avoir de Marie. Notre but est donc de nous apesantir sur la Bible pour mettre en exergue la place et le rôle qu'elle accorde à Marie, la mère de Jésus-Christ, et d'appeler toute la chrétienté sans exception aucune à s'y conformer. À l'instar des chrétiens de Béry qui examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, tous les chrétiens devraient scruter à la lumière de la Bible toutes les théories qui sont proposées sur la mère de Jésus-Christ. Avant et après Marie, Dieu a utilisé des hommes et des femmes pour accomplir ses projets ici-bas. Et ceci conformément à ce que démontre toute l'histoire biblique. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a voulu associer l'humanité à son œuvre En effet, il pouvait faire sortir de la poussière des milliers d'êtres humains. Mais il associe Adam et Ève en tant que co-créateurs dans son projet en leur demandant de se multiplier, de remplir la terre. La Bible donne un détail exhaustif de tous les serviteurs à qui Dieu a eu à confier une mission particulière. Et c'est dans ce sens que dans la lettre pastorale du synode général de l'Église réformée des Pays-Bas, par rapport au fait que Marie, mère de Jésus-Christ, est qualifiée de bienheureuse, il est mentionné qu'une promesse identique a été également faite à la femme qui ornit les pieds du Seigneur à Béthanie, et que de semblables expressions se retrouvent également dans l'Ancien Testament. En effet, il est écrit en Matthieu chapitre 26, verset 13, « En vérité, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Autant que toutes les générations parlent de Marie, la bienheureuse qui a eu à porter le Dieu incarné, autant le Christ recommande que l'on parle en tout lieu où la bonne nouvelle est prêchée de cette femme à qui la grâce a été accordée d'avoir pour rôle d'oindre son corps. La mère de Jésus-Christ n'a pas eu cette grâce d'oindre le corps de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qu'elle a eu à porter en son sein. En définitive, Dieu a octroyé à chacun d'entre nous un rôle et une place dans l'optique de l'accomplissement de son plan pour l'humanité. C'est donc un travail à la chaîne. Dès le commencement, le plan de Dieu incluait déjà l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité en vue de la rédemption de l'humanité. Ainsi, Dieu, dans sa grâce, a choisi des hommes et des femmes depuis la période de l'Ancien Testament pour accomplir des missions. Lorsque les temps furent accomplis où le Verbe devrait s'incarner, Dieu, dans son dessein, a jugé bon de confier cette mission à l'une de ses créatures pour que la parole puisse prendre chair. Les prophètes comme Esaïe et Michée ont annoncé la naissance du Sauveur par une vierge à Bethléem. Le Seigneur, dans sa décision souveraine, accorda une grâce à une vierge appelée Marie. Dans le cahier de charge présenté par l'ange Gabriel pour cette mission, Marie devrait porter en son sein le Dieu fait homme en vue du salut de l'humanité. C'est cette grâce qui lui a été accordée. Et son choix se situe dans la ligne des différents choix que Dieu fit depuis le commencement de la création et de l'histoire humaine. De même, sa mission a été prédite par d'autres, et elle va dans le sens de la réalisation complète de ce qui a été déjà dit. Marie n'est qu'un maillon dans une chaîne où tous les éléments travaillent à la réalisation d'un même objectif. Et comme nous dit la lecture lucanienne au premier chapitre, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé de la part de Dieu dans une ville de la Galilée dont le nom était Nazareth, vers une vierge à qui est fiancée à un homme dont le nom était Joseph de la maison de David et le nom de la vierge était Marie. Le verset 26 débute par l'annonciation du sixième mois. Ainsi donc, au sixième mois après la conception d'Élisabeth, l'ange Gabriel est à nouveau chargé de mission dans le pays au nord, en zone de Galilée, dans la ville de Nazareth, pour transmettre une communication à Marie. Et dans ce premier chapitre de Luc, c'est la deuxième fois qu'il est fait mention de l'envoi en mission de l'ange Gabriel. Marie était vierge, et cela découle de son jeune âge et de la bonne observance de la loi de Moïse sur les règles du mariage, où il était impératif que les futurs époux arrivent au mariage dans leur état de virginité. Dans le cas contraire, la loi prévoyait la lapidation à toute femme surprise en flagrant d'adultère, de fornication, de débauche. Dans la tradition des Juifs, une jeune fille était donnée en fiançailles à l'âge de 13 ans. Les fiançailles duraient 12 mois, puis elle est conduite au domicile du fiancé pour le commencement de la vie de mariage. Par deux fois, Luc accentue le fait que Marie était vierge. Dans l'Ancien Testament, on note à plusieurs reprises la présence des vierges. La virginité de Marie n'était donc pas un fait isolé, découlant du hasard, un fait extraordinaire pouvant justifier l'envoi de l'ange vers elle. Cette virginité provient de la bonne observance de la loi mosaïque, comme affirmé ci-dessus. Marie n'était donc pas la seule vierge, mais il existait beaucoup d'autres vierges en Israël. La virginité n'octroie donc aucun mérite spécial et supplémentaire à Marie, la mère de Jésus-Christ. Mais Dieu, qui fait grâce à qui il veut, a jeté son dévolu sur elle. Marie devrait donc considérer comme un instrument à qui une grâce a été accordée de la part de l'Éternel. L'auteur met en exergue cet état de préservation intacte du corps humain avant le mariage, en ce sens que ce corps servira à porter le Dieu incarné. Dieu, par le Saint-Esprit, se sert de cette virginité pour accomplir un acte unique dans l'histoire de la création et dans celle de l'humanité, car aucun homme n'est impliqué, ni de près, ni de loin, dans le processus de l'incarnation de la naissance de Jésus-Christ. Cela se dégage en effet dans la question de Marie à l'ange. Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira et de son ombre. L'incarnation à travers une vierge est donc le moyen choisi et établi par Dieu afin de pouvoir partager avec les humains leur vie terrestre. Le père de l'Église, Irénée de Lyon, affirma que Jésus a reçu toutes les caractéristiques de son humanité de Marie. En d'autres termes, il a vraiment pris chair en Marie. Pour l'évêque de Lyon, s'il n'a pas reçu d'un être humain la substance de sa chair, il ne s'est fait ni homme, ni fils de l'homme. Alors, pourquoi serait-il descendu en elle, s'il ne devrait rien recevoir d'elle? Citoyen du ciel et de la terre, ainsi donc, à la suite de la longue liste des serviteurs et des servantes, appelés par Dieu pour une tâche particulière, ce fut le tour de Marie, au moment fixé par Dieu pour accomplir la tâche qui lui était réservée. Comme Marie, acceptons aujourd'hui de faire allégeance à Jésus-Christ et d'être des instruments entre les mains de Dieu pour la réalisation de sa volonté sur la terre. Car Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et il a un plan pour nos nations africaines. Et il veut nous utiliser, il veut nous confier des missions particulières dans son Église, dans la société, dans la vie socio-culturelle, dans la vie socio-politique, dans la vie économique, dans la vie judiciaire, dans la vie de l'éducation. Approchons-nous donc aujourd'hui de Jésus-Christ pour découvrir la mission qu'il veut nous confier durant notre séjour sur la terre pour que nous accomplissions cette mission en vue du bien-être de l'humanité et du développement de nos nations africaines en particulier. Soyons donc serviteurs des autres. Dieu nous a positionnés. Il nous a positionnés dans la société pour servir et non pour utiliser notre position pour nous servir nous-mêmes. Comme Marie qui a servi l'humanité en acceptant de porter le Dieu incarné, aujourd'hui soyons serviteurs des uns et des autres. Soyons serviteurs dans nos administrations. Soyons serviteurs dans la société tout entière. Soyons serviteurs dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos arrondissements, dans nos communes, dans nos préfectures. Soyons serviteurs dans notre nation. Soyons une source de bénédiction pour les autres, particulièrement dans ce contexte de la pandémie du coronavirus. Soyons serviteurs mutuellement en nous transmettant des informations utiles. Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu le Père, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ et de la part de notre Consolateur, le Saint-Esprit. Nous vous remercions pour votre écoute et à la prochaine, si Jésus-Christ ne revenait pas.
Vous venez de suivre l'émission Citoyens du ciel et de la terre du pasteur Ghislain Afolabi Agbede. Pour tout renseignement, Fondation Adonai Iri House 01 BP 27 24 Cotonou Bénin. Numéro WhatsApp 00 229 97 11 94 77. Email info@adonaiiri.org. info@adonaiireh.org.
Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi.